Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Empreintes littéraires. Je suis Jérôme Dewache, professeur en lycée dans l'Académie d'Amiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Cassandre, élève de lycée comme vous. Aujourd'hui, nous avons quelques minutes pour parler ensemble, Cassandre, du XVIIe siècle.
Donc, quels sont les événements marquants du XVIIe siècle ?
Alors, les événements marquants, déjà, c'est la fin des guerres de religion qui ont pas mal secoué, bouleversé la France et l'Europe au siècle précédent. Donc, fin des guerres de religion, marquée par l'édit de Nantes par Henri IV en 1598. C'est le règne de Louis XIII et après lui de Louis XIV, Louis le Grand, le roi Soleil, et avec Louis XIV, l'avènement de la monarchie absolue. Et une société de courtisans et une noblesse, en fait, qu'il va avoir sous son contrôle. Et à cette époque, par le règne justement de Louis XIV, la France a une influence culturelle, politique très forte en Europe.
Peut-on dire que ce soit un siècle où domine la raison ?
Ah, on peut dire qu'on est entre raison et passion. Alors, on est dans la lignée de l'humanisme hein, du XVIe siècle, c'est-à-dire d'une réflexion sur la condition humaine qui va se poursuivre. Et de la même façon qu'on va être entre baroque et classicisme, on est entre raison, passion, dans un siècle d'opposition, mais qui s'incarne par exemple très bien dans les deux figures du théâtre que sont Corneille et Racine. De la même manière, on va alterner un regard plutôt pessimiste, moraliste sur l'homme, à travers Molière, La Rochefoucauld, de la même façon que va se développer une figure d'idéal de l'honnête homme. Donc on est toujours entre deux mouvements qui résument assez bien ce siècle finalement.
D'accord. Quelle est la place des artistes dans ce XVIIe siècle ?
Alors, il y a un lien très fort entre le pouvoir et les arts, entre le pouvoir et les artistes. Les artistes, en quelque sorte, vont être au service de la glorification du pouvoir royal. Alors, il y a des événements marquants. C'est par exemple, en 1635, la fondation de l'Académie française par le cardinal de Richelieu. C'est des règles qui vont être affirmées sur la langue par rapport aux arts, aux sciences. C'est le développement de ce qu'on appelle le mécénat d'État. Et c'est aussi, ça va avec, la censure.
Quels sont les principaux mouvements caractéristiques du XVIIe siècle ?
Il y a, au XVIIe siècle, on l'évoquait tout à l'heure, il y a deux mouvements principaux. Le baroque, qui marque la première moitié, même si on ne peut pas schématiser, mais le baroque d'un côté, donc qui lui va se caractériser par le goût du changement, de la métamorphose, de l'illusion, et qui traduit ce sentiment d'instabilité du monde, mais suite à tous les conflits en fait qui ont traversé la France et l'Europe. Et puis ensuite, deuxième mouvement qu'on appelle le classicisme, qui lui va chercher au contraire à retrouver l'ordre, le code, la codification, la mesure, retrouver une forme d'équilibre et de clarté, et c'est celui justement, le classicisme, qui va aller vers cet idéal de l'honnête homme, qu'on citait tout à l'heure.
D'accord, merci. Donc si je dois retenir quelques mots du XVIIe siècle, ça serait tout d'abord la monarchie absolue et la société de cour, puis l'honnête homme, les raisons et passions, les arts et la langue au service du pouvoir, et enfin le baroque et le classicisme.
Parfait. C'est un plaisir encore une fois d'échanger avec toi. À très vite pour le prochain podcast d'Empreintes littéraires.
À bientôt.